Vita Nova occupe une place charnière, pour dire, celle où j'ai expérimenté. Pour comprendre expérimenter, il faudrait revenir sur ce que nous disions de la musique. C'est-à-dire que la musique, pour moi, s'est présentée comme ce qui était capable de faire tomber des censures. La poésie traditionnelle, c'est-à-dire les mots un peu rares dans le blanc du papier, me sont apparus à un certain moment comme pouvant très bien entretenir, conserver des censures. C'est-à-dire qu'on se maintenait au niveau de la voix de tête, on transcrivait quelque chose qui, à un moment, se passait dans la tête, on cherchait à l'écrire bien, mais il n'y avait pas de surprise pour soi-même, on n'avait pas le sentiment qu'on faisait lever, grâce à la langue, des choses surprenantes pour soi-même, inattendues. Quand on se promène dans la campagne, dans un champ, les pas comme ça font lever parfois des tas de choses, des oiseaux qui étaient tapis. Et la langue portée par la musique, en la suivant sur une sorte de basse fondamentale que j'écoute quand j'écris Glamour ou Les Crocs actuellement, la langue me porte plus loin que je pensais être au départ. Il y a des sortes de sujets à traiter que j'ai écrits comme des sortes de poèmes. Et je reprends chacun de ces sujets à traiter sur leurs traits et en me laissant porter par la langue dans ce qu'elle peut avoir d'exagéré, comme ça, d'expressionniste, je vais voire lever des zones du corps, de la mémoire, qui ne peuvent pas venir si on ne travaille pas sur une longue portée, et c'est ça aussi que j'appelle la musique, ce qui pousse plus loin alors qu'on penserait pouvoir s'arrêter, ce qui force à continuer. Alors, Vita Nova a été une expérimentation à la fois d'avoir quelque chose comme un long chant, qui reprendrait dans son courant des petites cellules éparpillées et qui les emporterait dans son canal, dans son flot. Alors elle m'a dit comme ça qu'elle commencera, préférée Tarzan parce que c'était artisanal, hein, musique qui peut se faire au coin des rues, quoi, chez elle à une guitare. Les champs de travail, parce que les groupes qu'on voit sont souvent trop riches de moyens produits, trop riches qui ne peuvent être reproduits. Y par elle, c'est une autre question ici, et tournée un peu comme absente, alors elle dit comme ça, son col roulé noir, le dernier Hendrix avant le bond en avant de ses épaules. Le jaillissement de ses clavicules, figure de proue dans les manifs, pleine de figures de proue et dans un certain sens potentiel de résure. Gens comme ça qui se retourne sur la houle, incline ta pensée vite, l'oreille découverte, elle a
T
tête penchée à secouer les
quand
arrière-pensées.
t'es
Alors, j'ai pu faire ça grâce au travail avec le groupe d'atelier en utilisant différents corps de l'imprimerie qui sont ces corps d'imprimerie comme différentes voix, mais qui sont aussi la trace de petits blocs et ces petits blocs s'associant, emportés par un flot continu.
Visiblement, il y a deux figures emblématiques, c'est d'une part Artaud et d'autre part Joyce. Et de Joyce, on a l'impression de régresser, enfin régresser historiquement, je veux dire dans le temps, à Vico, et puis à, bien sûr à Dante, qui est à l'origine du titre. Est-ce que ce passage-là, cette régression, n'a pas été le signe aussi d'une libération pour trouver votre propre rythme?
Oui, certainement. Certainement, ça m'a permis de traiter une sorte de fascination à l'égard des figures, comme ça. C'est-à-dire, quelles sont les grandes figures, plus grandes que la phrase, que les figures de la syntaxe. Alors, Vico, oui, Dante, Giordano Bruno, disons peut-être quelque chose du côté de la Renaissance où il y avait l'idée que les choses s'organisaient selon des grandes figures par-dessous, des grandes formes. Et c'est pourquoi Vita Nova aussi avait comme sous-titre Petit ours dans la prairie, comme si dans une sorte de grand champ, de grand tapis, il y a ça aussi chez Henry James, vous savez, l'image dans le tapis, comme si dans un grand tapis, par un certain regard, et là le regard, le visible, est peut-être plus fort dans Vita Nova que partout ailleurs, comme si une sorte d'attention de l'œil découvrait des grandes figures organisatrices de ce qui, quelque part, essayait pourtant de couler. Et Artaud a un autre rapport aux chiffres à travers la cabale, le chiffre de la coagulation et de la séparation. Et c'est peut-être Artaud qui m'a permis de sortir de Vita Nova, dans la mesure où les chiffres chez lui disaient quelque chose d'une scansion et non plus d'une organisation des figures. Premier doigt sur la peau tendue, drap du petit homme où, base fortifiée, castrum romanum dans les deux fils, osophie. Pas de ponctuation atmosphère, mais poussée de la pointe de la pensée horizontale, chantala, massage. Jésus, par exemple, était trop pessimiste quand même, disant « Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Je dis « Mes paroles passeront, avancez, ostinato. » Injonction à renoncer, à creuser, ça tombe. Hai, sed, pourquoi la poésie? MS, un peu de rhum, C de céder, cri, main qui empoigne une lance, commencer, appui des bras, l'articulation des poignets, torsion des hanches, nager, poisson, couleur, tabla, bouche ouverte, atome et tout le tremblement, le jour au loin, quoi, rien, plus de musique, de lune, plus rien, de volume. Alors, glamour, ça s'écrit avec le souffle, tu vois? Par souffle et par apostrophe. Pour moi, ça s'est passé comme si j'étais davantage en contact avec mon écriture, beaucoup plus proche d'une écriture comme ça qui serait moins externe et plus interne. Et c'est aussi une sorte d'explication. Une explication comme si on était d'une certaine manière obligé d'écrire. Bon, c'est une obligation relative, mais comme si on était obligé d'écrire et que cette obligation d'écriture soit une sorte d'obligation de s'expliquer. Et pour que cette obligation de s'expliquer soit en même temps agréable, qu'on y retrouve son compte, pour moi, elle ne peut se faire qu'avec le souffle. Avec le souffle et les articulations qui, dans la langue classique, organisent l'explication, c'est-à-dire les car, les lorsque, les puisque, les donc. Et là-dedans, il me semble que tout ce qui me vient ou tous les sujets à traiter peuvent entrer. C'est donc la sorte de musique unique ou unifiante qui peut recevoir tout et qui permet en même temps dans ma tête ou dans mon corps quand j'écris d'être dans une sorte de demi-sommeil qui font tomber des résistances, qui font tomber un certain degré de conscience et donc à ce moment-là, j'écris sans effort, pourrait dire. J'écrirai des last poèmes. Tombale, sur le papier, relativement tranquille, à l'abri les membres n'étant pas engourdis, à défaut d'autres, puisqu'effectivement, entre les tatouages constellaires du cerveau, du cœur, de la mémoire, les cavernes. Je pense au froid, je le sens dans les eaux, qui revient, car dans quelle époque vivons-nous sinon celle des camps et des tabacs dans les commissariats jaunâtres, froid dans les articulations, comme dans ces années où, vêtus de guenilles, j'allais chercher de l'eau que nous n'avions pas à la roulotte et que je devais casser la glace pour puiser, le fer de lance se collant à la peau de la main dont les doigts ne se desserraient qu'à peine, ou dans l'abri d'un ancien fort, chez le gardien qui avait pitié de notre misère, ces longs tunnels réutilisés par des ateliers de recherche un peu secrètes sur la propulsion atomique, dans cette banlieue que je ne peux, encore aujourd'hui, traverser sans une sensation d'écœurement infect. Froid avec lequel pouvoir écrire suppose déjà un feu, un petit abri. Froid senti à nouveau déjà pendant la lecture de l'espèce humaine, d'Antelme sur les camps nazis et à celle des lettérés des carcères de Gramsci sur les rivages de Sicile d'hiver désolés et battus par le vent, et maintenant le goulag, les déportés de Pinochet sur une île au milieu du Pacifique. Je suis intéressé au texte qui a des blancs quand il est une sorte de naissance naturelle, si vous voulez, une sorte d'enfantement comme la nature enfante, d'un seul coup en donnant par toutes ces... comme si toutes les cellules pensaient en même temps et comme s'il y avait une sorte de pensée au niveau de la cellule, comme ça. Mais d'autres textes présentés avec des blancs me semblent être simplement un récit dont on ne s'est pas donné à son pouvoir d'arrachement continu. Donc s'il y a des trous dans Vita Nova, c'est au niveau des mots. J'écris « trous », je sens des trous en effet, mais ces trous sont dits dans un texte continu par strophe. Et là, c'est peut-être tout simplement, je ne sais pas, un mode d'enfantement humain, ou au moins animal, ou au moins vivipare. Ce n'est plus l'enfantement de la nature par tapis qui monte comme ça, comme une végétation, mais les choses où elles sentent la résistance des membranes, des peaux qui enveloppent ça, du frottement contre les parois, mais où ce qui vient, ce qui naît, ce qui s'enfante, s'enfante selon un canal, un flot. Alors, on pourrait dire aussi, peut-être qu'entre le poème de l'application d'électrice au chant et Glamour, avec ce passage de l'enfantement côté nature à l'enfantement côté humain, c'est d'une certaine manière aussi le passage des Grecs à la chrétienté, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Et la question que je me pose, c'est quel est le meilleur enfantement qui puisse évacuer le sens courant? Est-ce que c'est un enfantement de type naturel, comme ça, par levée de sens en une multitude de points, ou est-ce que c'est en refaisant l'histoire? Donc l'histoire, le courant où une zone du corps va visiter d'autres zones.
L'ange est une figure, et même la figure de l'hystérie. Et c'est aussi une figure qui est à mettre en relation avec cette histoire ce récit que vous faites d'une certaine écriture à travers Vita Nova. Je pense qu'on a parlé de Vico, on a parlé de Giordano Bruno qui est mort sur le bûcher, on a parlé de Dante qui est mort exilé, et de Joyce qui était un exilé de l'intérieur, qui est devenu même la figure dans l'art moderne de l'exilé de l'intérieur, l'exilé dans la langue. Ce qui m'a beaucoup frappé dans Vita Nova, où il est question beaucoup de figures, a priori, justement, surtout lorsqu'on pense au système de Vico, qui est repris en charge par Joyce et qui est donc repris en charge par nous-mêmes dans notre modernité, dans le simple fait de nous comme lecteurs. Comment vous l'envisagez ?
Les grandes figures que vous avez évoquées, je les ai vues comme des figures qui disaient quelque chose très fort de l'histoire et des anges et du diable et du destin. Mais ce sont restés pour moi des figures de la culture, comme ça. Pas d'identification possible avec elles, simplement elles m'ont donné des renseignements sur un trajet et sur un débat qui se passait dans la culture. Les figures que je suis allé chercher plus proche de moi et avec lesquelles, en partie, je peux m'identifier, en tout cas qui sont comme une sorte de récit dans lequel moi-même j'ai intérêt à aller voir ce qui se passe, ce sont celles de gens qui étaient complètement en dehors de la culture. Ce sont des figures qu'on pourrait appeler figures sales, figures d'anges sales. Bon, mais ce sont les figures de gens dans lesquels j'ai passé une partie de mon enfance ou de mon adolescence et qui sont des figures d'un milieu très, très éloigné de la culture, qui sont les figures de chiffonniers, des figures que je vois comme des lambeaux aujourd'hui déchirés. Ce sont les figures de chiffonniers au milieu desquelles j'ai vécu effectivement dans la banlieue parisienne. C'était une banlieue pour de nombreux sens, dans une décharge.
Il semble... Impossible. 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 Ici.
Dans une décharge où, à coups de crocs, c'était un outil, comme ça, une sorte de petite fourche, on allait gratter les choses pour y trouver de la nourriture, au bout du compte, ou des papiers qu'on revendrait pour se faire un peu d'argent avec ça. Alors, ce sont ces figures avec un langage très, très peu développé, un langage des gens qui parlaient presque par onomatopée ou par cri, que moi j'ai ressenti comme étant une sorte d'isolement par rapport à la culture à ce moment-là. C'est là que j'ai pu penser qu'il y avait quelque chose de mon imaginaire, de mes identifications qui pouvaient se trouver et que je suis intéressé à les faire revivre au moment où j'écris maintenant. Ce sont des figures de gens sans culture, donc très éloignés de la culture. Et une question qui me talonne toujours, c'est compte tenu de cette misère, de cette condition humaine, qu'est-ce que peut faire là la culture ? Alors, en partie, j'y réponds en disant « La culture permet de relire tout ça, à la fois dans son poids de réel, et dans sa fiction.
Mais à propos de fiction, juste lorsqu'on lit les quelques pages qu'il est possible de lire des crocs, on a l'impression que vous orientez vers un type de narration, que vous désertez le terrain de la poésie qui serait surcodé, surchargé culturellement, comme vous venez de le dire, pour autre chose. Mais moi, je me contente pas de cette explication biographique. Je voudrais savoir quel est le projet qui sous-tend, parce qu'on a l'impression là que c'est de nouveau un passage qui s'opère, qu'on déserte un terrain qui a été un lieu de prédilection, dont vous avez fait, on vient de voir l'histoire, qu'on va vers un lieu qui ne serait pas un lieu inculte, qui ne serait pas une terra incognita ou le territoire des barbares qui a été indiqué sur les cartes anciennes, mais quand même un lieu qui reste une zone à explorer. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu dans votre esprit ?
Oui, il y a ça, il y a ça. C'est une zone à explorer, mais comme une réserve d'imaginaire, au sens où on dit, je crois que c'est Lacan qui soufflait ça quelque part, une réserve d'Indiens. Je ne vais pas vers une terra incognita, je ne crois pas, je vais vers une sorte de réservoir où je sais que je pourrais avoir suffisamment d'indiens, d'imaginaire, pour écrire longtemps. Parce que, au fond, toute chose considérée, ce qui est une des choses les plus agréables à faire dans la vie, une des seules où je me sente vraiment en train de pouvoir faire quelque chose, c'est écrire. Et donc là, dans cette réserve, j'ai l'impression que j'ai de quoi écrire longuement. Et cela, ça va bien avec une sorte de méthode, c'est-à-dire que la conviction m'est venue qu'il ne pouvait y avoir quelque chose d'intéressant pour moi qui venait de l'écriture qu'à écrire beaucoup, qu'à écrire longuement. Et que les choses pouvaient venir dans le temps même de l'écriture. Alors, pour moi, comme pour d'autres peut-être, ce qu'on appelle habituellement la poésie, ce qui n'est pas glamour, ne pouvait pas être cette méthode, dans la mesure où c'était toujours des sortes de pensées et que le travail d'écriture était une sorte d'organisation, de perfectionnement, de plus-value, par rapport à ces premières pensées qui déjà sont du langage, d'accord, mais qui restent au niveau de la pensée. Par contre, avec une méthode comme celle de Glamour, où il s'agit d'écrire longuement, en grande quantité, les choses peuvent venir dans cette méthode-là même, dans ce temps de l'écriture longue, longue. Et c'est comme ça que c'est une méthode qui fait que je n'ai pas à faire marcher une sorte de souci qui irait quelque part en panne, rechercher des moyens de relance. Cette réserve est pour moi assez riche, assez pleine de choses pour que constamment je puisse y trouver de quoi continuer d'écrire. Et peut-être il y a quelque chose comme ça du côté des musiciens ou de certains musiciens. Berio, Luciano Berio, par exemple, il écrit une sequenza d'abord, c'est pour un instrument solo. Je pourrais dire que c'est la poésie. Et quelques années plus tard, il reprend ça et il écrit pour plusieurs voix, pour plusieurs flots dans le canal, en quelque sorte. Une œuvre où il utilise la première œuvre solo, la sequenza, mais cette fois-ci il l'appelle chemin. Et À ce moment-là, il y a des tas de choses qu'il avait laissées de côté sur le fil étroit de sa séquence qui viennent, qui l'emportent. Et en commentant ce passage de la séquence au chemin, il parle effectivement d'une quantité de choses qui sortent de la mémoire et qui viennent grâce à la quantité de travail. À ce moment-là, c'est un travail d'une toute autre nature. C'est un travail beaucoup moins conscient que celui de la poésie. Le terme de travail n'est peut-être plus tout à fait adapté là.
Claude Minière, 1965-67, parution dans les revues telles quelles Promesse, Manteia. 1968, l'application des lectrices au chant, édition du Seuil. 1976, Temps de parole, with drums, édition Orange Export. 1975-1977, article dans Musique en jeu, Art Press, d'Atelier. 1977, Vita Nova, édition d'Atelier. 1977-78, parution dans Substance, Fantomas et Poésie, traduction d'Ezra Pound, écrit sur la musique, avec Margaret Tunstall. 1978, Glamour, édition Christian Bourgois, apparaître en décembre.